voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour. Au cours de 4 voyages, le cardinal Roger Etchegaray, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'est rendu en Chine. C'était en 1980, 96, 2000 et 2003, sous régime communiste. Et le cardinal, s'il entrait en relation avec les chrétiens de Chine, désirait surtout entretenir des relations d'amitié avec les Chinois. Il a rédigé le récit de ses contacts dans un livre intitulé « Vers les chrétiens en Chine, vu par une grenouille du fond du puits ». C'est publié aux éditions du Cerf, parce que le pays est grand et la modestie du voyageur est de mise. Roger Etchegaray écrit dès la première page « Pour entrer vraiment en Chine, il faut passer par la porte du cœur, celle de l'amitié, comme l'avait bien compris Matteo Ricci, ce jésuite savant du XVIe siècle qui écrivit un savoureux traité de l'amitié avant d'être introduit dans la cour impériale. » C'était la cour de l'empereur Wanli en 1601. Et chaque fois qu'il est retourné en Chine, le cardinal Etchegaray s'est senti en compagnie de Matteo Ricci. Il a effectué un pèlerinage sur sa tombe et c'est son récit que je vous propose d'écouter maintenant, lu par le comédien Fernand Guillot.
En arrivant à Pékin, j'avais suggéré d'ajouter au programme établi une visite sur la tombe du jésuite Matteo Ricci, cette figure missionnaire qui réussit à la fin du XVIe siècle à traverser avec l'Évangile l'épaisse frontière culturelle de la Chine jusqu'à la cour impériale. Avant de m'envoler pour Xi'an, j'apprends que mon désir est exaucé. Je savais que l'Imatu, comme l'appellent les Chinois, est encore respecté au point d'être mentionné dans les manuels d'histoire. Mais je n'imaginais pas que ma visite serait revêtue d'une sorte de privilège. Sa tombe se trouve dans la cour intérieure d'une école de formation des cadres du Parti communiste, ancienne résidence des jésuites de Pékin. Vittorino Colombo, célèbre homme politique et pionnier des relations italo-chinoises, me dit un jour qu'il avait obtenu la même faveur en 1978, mais qu'il avait découvert la tombe en piteux état, ravagée par les gardes rouges de la révolution culturelle. Le quotidien du peuple, Renin Ribao, organe officiel du parti, et le bulletin d'information de l'agence Xinhua, dans son édition française, mentionne ma visite comme un événement pour la Chine. Je me recueille devant 3 stèles funéraires bien restaurées, celles des pères Matteo Ricci, Adam Scholl et Ferdinand Verbiste, tous 3 reconnus comme savants bienfaiteurs de la Chine. La représentante du ministère des Biens culturels me reçoit en me citant ces paroles du chancelier de l'empereur Ming, qui, fait unique, avait concédé le terrain pour la sépulture. Il n'est jamais arrivé en Chine un étranger aussi prestigieux par la science et par la vertu que ne le fut le docteur Ricci. Je me remémore l'aventure de ce missionnaire de Macerata qui, à 30 ans, rejoint Macao, seul point par lequel un étranger pouvait alors mettre les pieds en terre chinoise. Il lui faudra 18 ans pour réussir à atteindre Pékin, où il restera à peine 9 ans jusqu'à sa mort. Il n'a jamais pu rencontrer directement l'empereur qu'il fascinait pourtant par la renommée de sa virtuosité en sciences et techniques de toutes sortes. Mais plus que son itinéraire géographique, c'est son cheminement pastoral qui me fait réfléchir. Il révise en cours de route sa conception de la mission. Il se croit devenu chinois avec les Chinois par sa manière de s'habiller et de vivre. Il découvre peu à peu combien il sera encore loin d'eux tant qu'il n'aura pas pénétré la pensée chinoise jusque dans ses racines confucéennes. Matteo Ricci a voulu comprendre un monde aux antipodes du sien, mais il a surtout voulu le faire en serviteur de l'Évangile, avec les limites propres à son temps et en prenant des risques jugés téméraires par certains missionnaires. Le père Beauchamp me dit devant la tombe qu'il faut comprendre son aventure sous l'angle de la folie de la croix et non sous celui d'une stratégie missionnaire. Il suscita quelques admirateurs de son savoir, mais peu de disciples du Christ, et il connut lui-même la précarité de son ministère proprement religieux. Il constata que parmi les 6 principaux motifs de son renom, sa catéchèse figurait au dernier rang. Et pourtant, n'est-ce pas grâce à ses écrits religieux, découverts au XVIIIe siècle par une délégation coréenne venue en ambassade à la cour impériale, que l'Évangile fut introduit en Corée, au pays du matin calme. Quand on parcourt l'histoire d'un peuple, il faut la lire avec les yeux de celui qui en est le vrai maître, le Seigneur du ciel, dirait Matteo Ricci. J'espère qu'un jour, l'Église pourra reconnaître les vertus héroïques de sainteté de ce pionnier de l'Évangile du Christ. Sa cause de béatification est actuellement en examen au Vatican.
Le texte que vous venez d'entendre est extrait du livre du cardinal Roger Etchegaray de l'Académie des sciences morales et politiques « Vers les chrétiens en Chine ». Il est publié par les éditions du CERF. Et précisons que dans cet ouvrage, François Cheng de l'Académie française a choisi de calligraphier 2 mots en ouvrant ainsi des perspectives d'interprétation plus vastes. Concernant l'actualité de Matteo Ricci, en cette année 2010, il est à l'honneur et on commémore le 400e anniversaire de sa mort à Pékin en 1610. Alors il faut absolument signaler la parution en DVD du Grand Ricci numérique, ce dictionnaire encyclopédique de la langue chinoise. En 2002 étaient parus les 7 volumes de ce dictionnaire, qui est le plus grand jamais réalisé dans une langue occidentale, qui est le fruit d'un travail titanesque des sinologues jésuites et de leurs continuateurs. Ce DVD offre plus de 13 000 entrées de caractère singulier, 278 000 entrées d'expressions ou de mots chinois, des dossiers, des index, des tables chronologiques, des fonctions de recherche évoluées. Bref, l'association Ricci met désormais à disposition un outil du savoir extraordinaire, véritable banque de données encyclopédiques. D'autres ouvrages méritent aussi d'être signalés. La reparution du fameux ouvrage de Marcel Granet, La religion des Chinois, avec une préface de Georges Dumézil, de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est une édition Albin Michel. Un autre livre simplement intitulé Matteo Ricci, que l'on doit à Étienne Ducornet, qui est publié aux éditions du CERF avec le concours du Conseil de l'Université de Fribourg. C'est une biographie et une présentation simple et accessible des œuvres de Ricci et de sa méthode. Et enfin, signalons l'apparition, toujours aux éditions du CERF, d'un livre majeur d'un penseur chinois contemporain, Liang Suming, intitulé « Les idées maîtresses de la culture chinoise ». Ce livre, traduit par le père jésuite Michel Masson, qui a été reçu dans le studio de Canal Academy, fait l'objet d'une émission que vous pouvez écouter ou télécharger librement sur notre site. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.